Est-ce que c'est le matin ou l'après-midi? Ceci est un cours que je vous donne à tous. Hier soir, la question était posée. Qu'est-ce que c'est les corps? Qu'est-ce que c'est la pratique des corps? Ben voilà. Tout de suite, on va répondre à c'est midi 17 ou je ne sais pas. Donc c'est après-midi. Et donc, c'est clair. Selon le montre, selon les conventions de temps, le mouvement des sphères cosmiques, la Terre qui tourne, le Soleil qui, etc., etc. Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Chaque jour, quand je me mets là, avant de parler, je me retrouve face au courant. Qu'est-ce que c'est? Bien sûr, je vais formuler ça de différentes façons. Je vais dire de quoi il s'agit, qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce qui est important à dire, qu'est-ce que... Bon, et ça, c'est juste des formules un peu générales. Ça peut prendre des formules plus particulières. Un tel a posé des questions, ceci, et donc, comment je réponds à ça, etc. Ça peut être plus détaillé. Le fait est que c'est toujours... je suis toujours face à ce con. Et c'est semblable à quand j'ai parlé hier d'être face au mur, qu'il y a des pratiques où on s'assoit face au mur. C'est juste une autre façon de poser le corps, d'être face au mur. On dit que ces gens-là qui font cette pratique-là, face au mur, ils ne pratiquent pas le corps. En général, c'est les écoles bouddhistes qui n'ont pas de corps. C'est ce qu'on dit. Ils sont face au mur et ils ne pratiquent pas avec des corps. Mais ce n'est pas vrai. Dans le sens que, effectivement, formellement, ils n'ont pas une pratique, entre guillemets, formelle de Coran, mais être face au mur, c'est pratiquer le Coran. Être en vie, c'est pratiquer le Coran. Parce que la vie même, c'est un Coran. Donc tout le monde a un corps, en fait. Qui es-tu? Et ce qui es-tu, ce n'est pas du tout les réponses que tu crois. Dès qu'on croit en quelque chose, il y a une séparation. Et les vraies réponses ne se retrouvent pas dans la séparation. Donc, Bien sûr qu'il y a des grands, comme j'explique souvent, c'est un mot qui désigne un cas, comme dans le système de droit où il y a des cas qu'on utilise pour soutenir tel ou tel argument devant un tribunal. On va citer tel ou tel cas. Et les Corans sont organisés de la même façon. Il y a des cas. Mais chaque instant présente des cas. Chaque instant présente une situation différente. Dans laquelle les autres cas ne s'appliquent pas vraiment. Bien que, dans tous les cas, il y a quelque chose de partagé. Et donc, ça revient à ce que je disais hier à propos de... Je disais ça hier, ou je disais ça à quelqu'un. Je ne me souviens plus. Bon, bref. Le fait est que on est tous différents. Tout est différent. Il y a tout un tas de différences partout. Et il est impératif de voir ces différences. Donc tous ces cas sont différents. Et très très précis, très exact. Il n'y a que cet instant-là qui est cet instant-là. Maintenant, c'est un autre instant, et il n'y a que cet instant qui est cet instant-là. Et maintenant, c'est un autre instant, et c'est que cet instant qui est cet instant-là. Donc, des différences, oui, ok. On peut dire, ok, bon, d'accord, je vois qu'il y a des différences, évidemment. Je vois qu'il y a des grands arbres et il y en a qui sont plus petits. Je vois bien qu'il y a du soleil, il n'y en avait pas avant. Je vois bien que moi, je suis assise ici et il n'y a personne là. Je vois les différences. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, on va faire des distinctions avec ces différences. On va rendre quelque chose plus distingué que l'autre. On va établir les valeurs. Les grandes arbres sont meilleures que les petites. Cette place est moins bien que cette place. Les pâtes sont meilleures que du riz. Bon, je ne sais pas, tout un tas de choses. Et comme je disais, on ne voit plus donc, on ne goûte plus des pâtes. Parce qu'on a une idée. On a nos préférences, etc., qui vient parfumer le riz avec un autre parfum. Et parfumer les pâtes avec un autre, qui est le nôtre aussi. Quand je n'étais pas satisfaite hier avec ma réponse à la question sur la colère, il faut ajouter que je suis rarement satisfaite avec mes réponses, donc ce n'est rien d'extraordinaire que je n'étais pas satisfaite avec cette réponse. D'ailleurs, je dis rarement, je pense que je ne suis pas satisfaite avec mes réponses, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de... tout bouge. Donc, c'est jamais complet, c'est jamais définitif, parfait, etc. Donc, ce qui est important à voir dans cette histoire de colère, dont je dis hier, c'est cette notion de je qui est en colère. Et donc, le parfum que je mets dans la colère et la façon dont je sculpte la colère et le mettre en exhibition et même le porte comme un collier. Et je donne justement des images de quelque chose de très concret, c'est solide, qui est là, que je peux montrer et qui est identifié avec moi. C'est là où le problème est avec la colère. Ça devient objet et c'est dirigé vers un objet. Si on est totalement, je dis totalement, pas dans le sens totalitaire, mais si on n'est pas séparé de cette colère, il n'y a pas de problème. C'est dans cette séparation où le je est très fortement représenté qu'il y a le problème. Ça ne me satisfait pas non plus comme réponse, mais c'est quelque chose que j'ai pu ajouter à cette réponse. Dans les Corans, il y a des cas où une situation précise est présentée. Et on reçoit, est-ce que c'est matin ou est-ce que c'est après-midi? Et on se demande, je ne sais pas. Ou oui, c'est après-midi, ou non, j'ai l'impression que c'est matin, ni l'un ni l'autre. Je m'en fiche, qu'est-ce que ça veut dire cette question, à quoi bon, je vais faire des recherches, je vais étudier, qu'est-ce que d'autres gens ont répondu à cette question, dans différentes traditions, où je vais étudier les sciences, pour voir, j'exagère un peu, mais on fait ça. Peut-être dans une autre langue, si je le pose ça en anglais, is it morning or afternoon? Est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment après-midi? Clairement, après-midi, ça veut dire après-midi, donc ça doit être après-midi, etc. Et on va tourner en rond avec ça. Et on va venir et on va venir me dire, ah oui, je sais, c'est après-midi. Et moi, je vais dire non, je vais sonner la cloche. Ou, oui, c'est le matin, et moi, je vais dire non, et sonner la cloche, etc. On va essayer de discuter. Il y avait quelqu'un dans la retraite il y a quelques semaines qui travaillait sur le premier courant qu'on donne en général, qui est mou. Si la question c'est un maître, un disciple demande à un maître, est-ce qu'un chien a la nature de Bouddha? Et le maître répond, mou. Et la question est, alors ok, c'est quoi mou? C'est quoi cette histoire? Pourquoi le maître dit ça? Qu'est-ce que c'est une histoire? Qu'est-ce que c'est la nature de Bouddha? Pourquoi un chien? Etc, etc. Mais ultimement, on est laissé avec, mais qu'est-ce que c'est mou? Et donc cette femme est venue et elle m'expliquait tout un énorme. Des choses qui n'étaient pas fausses. Des choses, oui, dans l'absolu, machin. Oui, et si dans la méditation de Shamatha, on expérimente ceci. Dans le mais en shunyata, il y a vide, etc. Longue explication qui était très bien dite et érudite, etc., etc. Et comme c'était la pratique le soir, quand je reçois et c'est juste présentation, rien d'autre, on ne discute pas. J'ai reçu tout ce qu'elle a dit, comme sa présentation. Et puis j'ai dit, ok, oublie tout ça et recommencez. Et j'ai sonné la cloche. Elle était très étonnée. C'est ce qu'il faut faire. On doit oublier tout ça. Oublier matin, après-midi, quoi, les théories scientifiques, les concepts. C'est pas faux, mais c'est pas ça. C'est pas ça qui est cherché. C'est pas ça qui va nous libérer. C'est pas ça qui nous permet de voir les choses telles qu'elles sont. Parce que tout ces concepts, ça maintient notre perception des concepts, c'est tout. Et donc, on est limité par les concepts. Et c'est très curieux, ça, c'est, à l'instant, quand je pense à ça, je pense à comment nous, ce jeu, et je dis je ou moi, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le décrire, où je n'ai pas trouvé une formule qui me satisfait, et souvent on dit ego, mais ego est tellement teinté avec des termes psychologique, etc. Je ne veux pas utiliser ce mot, mais comment ce moi-je, qui est un énorme concept, comme les autres, va essayer de tout accaparer. Donc, par exemple, si il y a un instant où on voit une réponse pour est-ce que c'est matin ou est-ce que c'est après-midi, ou qu'est-ce que c'est mou, c'est clair. Et puis tout de suite, ce jeu, qui n'a rien à voir avec ça, va dire « Ah, ouah, c'est ça !» Merveilleux, je le vois. Et il va s'identifier avec ça, et il va s'accrocher à ça. Et il va trembler ça, il va essayer de répéter ça, mais ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec lui. Et l'implication de ce qui a été expérimenté, implique sa non-existence, implique le fait qu'il n'est pas vrai, il est faux, lui, implique le fait que c'est un imposteur. On dit ça, imposteur, imposteur. Mais lui, il s'en fiche, il prend comme ça. Il cherche toujours quelque chose pour s'affirmer, Et il est obligé de chercher constamment parce que rien l'affirme en fait. Rien va être satisfaisant. C'est pour ça que mes réponses ne sont jamais satisfaisantes. Pour je. Parce qu'ils ne peuvent pas affirmer, ils ne peuvent pas satisfaire je, parce que rien ne peut satisfaire je. Donc, et ça me fait penser à, je ne sais pas si d'autres gens sont au courant de ça, mais pendant la campagne présidentielle américaine en 1984, donc il y a longtemps, quand il y avait Ronald Reagan qui se présentait pour réélection, ça correspondait à la sortie d'un disque de Bruce Springsteen qui s'appelait Born in the USA. Et c'était un des plus énormes malentendus imaginables. Ronald Reagan, qui, là, dans ce schéma, est l'égal du moi-je, voit cette chanson Born in the USA et le prend comme étant une affirmation de tout ce qu'il représente, lui, la grandeur de l'Amérique, la suprématie du libéralisme rampant, d'un impérialisme qui essaie de transmettre à tout le monde, s'ils veulent ou non, la vision américaine. Il prend cette chanson et il dit voilà. Mais en fait, c'était ridicule parce que cette chanson ne dit pas du tout ça. Et Bruce Springsteen ne représente absolument pas ça. C'était le contraire. Si on écoutait vraiment cette chanson, alors Ronald Reagan était bien emmerdé parce que tout ce qu'il représentait était mis en cause dans cette chanson de la misère de l'Amérique, de tout ce qui n'allait pas avec ce système, des problèmes causés par cet impérialisme guerrier qui avait essayé d'imposer par force sa vision du monde et les conséquences pour son propre peuple. Bon, c'est une petite parenthèse, mais vous voyez que cette chose dont je parle, j'ai bien chose, cette complexe ou cette incidence, apparaît partout, dans toutes les situations de la vie, à chaque instant. Alors, comme Ronald Reagan a montré avec son bêtise, si on est vraiment à l'écoute, si on écoute vraiment la musique, si on écoute vraiment la chanson, il y a d'autres choses qui se passent. Et dans le travail des courants, il s'agit d'écouter vraiment la musique. Sans notre idée de quelle chanson c'est, ou quelle mélodie on veut entendre, quelle mélodie on doit entendre, et sans vouloir l'accaparer et utiliser à nos sens, nos fins. Et comme j'ai dit, le plus grand imposteur, c'est je, c'est moi. Il cherche toujours à se présenter comme quelqu'un qui n'est pas. Et si on écoute sa chanson, on l'entend. Si on est vraiment à l'écoute de ça, on l'entend. Et donc, il y a tout un innombrable courant qui met en évidence ça. Des plus simples, enfin des plus brefs, ou aux plus élaborés, où c'est des longues histoires, des longues situations, des dialogues, etc. Ou même, ça peut être juste une phrase qui est très élaborée, et très... très énigmatique. Apparemment, il n'y a pas d'énigme dans est-ce que c'est matin ou après-midi. Mais dans le... quel est le son d'une main? What is the sound of one hand clapping? Alors là, c'est un peu plus énigmatique. Énigme pour notre esprit discursif qui cherche à établir les liens, les catégories, une logique. La réponse à qu'est-ce que c'est un verre d'eau ? A été donné. Et ce n'était pas une explication. Il n'y a pas d'énigme. Ce n'est pas du tout énigmatique. J'essaie de plus en plus, j'essaie de sortir ces notions de camp, etc., des cadres traditionnels qui peuvent paraître exotiques ou séparés de nous, pour les placer vraiment au cœur de notre vie telle que c'est. Donc, c'est pour ça que je choisis l'histoire de Ronald Reagan, tu vois, c'est là, le verre d'eau, au matin ou après-midi. J'aurais pu donner un truc, le maître Bodhidharma se présente devant l'empereur en Chine, et l'empereur lui dit... qui est devant moi? Et Bodhidharma m'a dit, je ne sais pas. C'est un autre courant. Mais c'est pas... Pour nous, à cet instant-là, la même chose s'applique. Qui est devant moi? Quand je dis, qui es-tu? C'est la même question. C'est le même échange. Qui es-tu? Alors, qu'est-ce qu'on répond? Si on répond comme vous dites en main, je ne sais pas. Alors là, la cloche sonne. Ding, 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 ding. Ou un autre maître qui... Il y en a plus... dramatique, il y en a qui tabassent avec des bâtons. Non ! Idiot ! Il y en a même qui coupaient les doigts. Pas ça. Et non, ça, c'est pas, c'est ni bien ni mal. Comme j'ai dit hier, le rôle de celle ou celui qui est ici, ce n'est pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste de dire c'est. Qu'est-ce que c'est? Tel qu'on l'aperçoit. Et celle ou celui qui est assise là a passé par là. Et donc il a l'expérience de ça. Il ou elle va pas faire travailler les gens quelque chose qu'il n'a pas travaillé lui-même. Il a une expérience directe de ça. Ça ne veut pas dire qu'il possède quelque chose que l'autre ne possède pas. Ça ne veut pas dire qu'il sait quelque chose que l'autre ne sait pas ou doit savoir. C'est juste les choses telles qu'elles sont, c'est tout. Voilà la pratique des courants, je crois. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que je qui ne sont pas claires ou est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose à ça? Me poser une question?
On commence à la colère. Je sais pas si j'ai bien compris, mais après tu avais parlé de l'écoute. Est-ce que ça veut dire que si on avait vraiment écouté, qu'il n'y avait pas de raison d'être en colère?
Pas forcément, non.
Pas forcément. Et l'écoute dans ça, alors, quelle est l'importance de l'écoute vis-à-vis de la colère?
C'est d'être, quand j'ai dit écoute, on peut utiliser aussi voir ou sentir ou percevoir ou awareness, peut-être aussi un peu. Ou prêter son attention à, je sais pas. Être à l'écoute d'eux, c'est être conscient d'eux. J'aime bien l'anglais to be aware of. Et effectivement, ça, quand il y a cette attention, on voit la situation telle qu'elle est. Et peut-être il y aura toujours colère, mais la colère ne sera pas teintée par cette par cet attachement qui vient toujours parce qu'il y a des choses à ajouter. Ce sera juste ce qui vient dans la situation.
Et là, la colère a sa place ou pas.
Voilà. Comme peut-être la tristesse ou le bonheur, ou je ne sais pas, d'autres choses. Et que quand j'ai dit hier il y avait ces deux faces dans ces énergies. Donc, il y avait la face névrosée de colère et la face illuminée, comme on dit, qui est la sagesse transcendante. La clé de la transmutation, c'est cet je, moi. Quand le moi est présent, c'est l'aspect névrosé. Quand le moi n'est pas présent, c'est la sagesse.
Seuleuse dans le sens proche, proche de la situation. C'est un peu... Si le moi-je contamine la colère, quand le moi-je n'est plus là, et que la colère est, elle est dans la situation presque, enfin, dans la situation telle qu'elle est. Elle appartient à la situation.
Oui, c'est juste ce qui est. Et donc, si, comme les situations sont changeantes, c'est comme des nuages, parfois ça va être là et parfois non. Et si on essaie de l'attraper pour le garder, c'est problématique. Et notre colère, souvent, vient de ça, qu'on n'arrive pas à l'attraper. Quoi que ce soit, la situation, dans le sens qu'on ne peut pas modeler la situation pour correspondre à nos désirs. Et donc, on est en colère. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et donc, il s'agit d'être conscient de ça. Ok, je vois que je suis en colère parce que je n'arrive pas à chasser ces nuages pour que le soleil reste tout le temps. Et donc, je suis en colère. Mais si on voit... c'est juste, ok, je suis en colère, j'aime pas la pluie parce que tout un tas de raisons, et si je vois ça et je vois la pluie juste pour ce que c'est, la colère probablement va dissiper parce qu'il n'y a pas de cause de colère. Je cherche plus à maîtriser la situation. Je ne cherche plus à contenir ma colère même, ni de la répondre. Répondre. Donc, ça va probablement dissiper. Bon, évidemment, ça prend du temps. C'est pas juste... Ou ça peut être juste comme ça aussi. Ça répond à cette question ?
Parfois, on oppose l'avidité et la colère. Dans l'avidité, il y a aussi une phase lumineuse. C'est très différent.
Oui, l'abondance. Oui, c'est l'énergie de... le nom tibétain pour ça c'est Ratna, et c'est la oui c'est la
pardon? La profusion, la richesse,
oui, c'est le côté illuminé de cette côté avidité.
Je peux juste poser une question. Quand on parle d'avidité en français, on veut dire greed.
Et ça vient d'une idée qu'on a, qu'on est pauvre. Et que je est pauvre et petit et doit protéger ses biens, doit ne pas partager, qui n'a peu de choses et donc qui... Il va même essayer d'accumuler pour avoir plus de choses. Et donc, peut-être qu'il va avoir plus de choses, mais c'est jamais assez, parce qu'il a cette idée qu'il est pauvre, qu'il ne peut jamais être éliminé, tant qu'il ne voit pas sa vraie nature, qui est une richesse sans nom, sans prix. Mais quand il voit ça, quand cette... je ai vu pour ce que c'est, l'abondance.
Comment on peut concilier ça avec les gens qui sont vraiment dans le besoin?
Tu veux dire les SDF ou ouais, les gens qui crèvent de faim
Afrique, ou... les gens, oui. Oui, les SDF, les gens en Afrique. Oui.
Qu'est-ce que tu veux dire, comment on peut le...
concilier cette idée de lâcher prise de l'avidité pour avoir l'abondance de réaliser son, pleinement sa propre, son propre abondance. J'explique mal. Parce que je vois le concept et je sais que ça peut arriver. Mais j'ai du mal à l'appliquer dans le monde en général. Je crois qu'on peut l'appliquer au sein de ces groupes parce qu'on est des gens plus ou moins privilégiés dans nos vies. Donc, de lâcher prise à des petites mesquineries, c'est facile. Mais quand on est vraiment dans une grande... Ah, j'ai compris, j'ai la réponse, en fait.
C'est quoi? C'est quoi?
En fait, le petit éclair que j'ai eu là, c'était l'histoire d'un homme en Afrique, c'était au Kenya, et quand il a eu 75 ans, il y avait eu une déclaration au Kenya que tout le monde avait le droit à l'éducation. Donc il est allé à l'école. Et c'est une histoire vraie, mais on vient d'en faire un film. Et il a dû se battre pour aller à l'école, parce qu'en fait, c'était pour les enfants de 5 ans. Mais il s'est battu, il est allé à l'école primaire. Et parce qu'il voulait vraiment apprendre à lire et écrire. Et c'est quelqu'un qui s'est battu dans les années 50 pour l'indépendance de Kenya. Donc je crois qu'il y a un peu le même principe que... Enfin, c'est un peu flou dans ma tête, mais... Enfin, c'est pas flou dans ma tête, mais c'est flou pour m'expliquer. Que cette ouverture est de ne pas voir les barrières. Parce que lui, il y avait une barrière. L'administration a dit non, c'est pour les enfants. Et lui, il a insisté sur ses droits parce qu'il a dit c'est education for all. C'est pas que pour cette génération, à partir de cette génération. Et moi, je me suis battue pour ce pays et j'ai droit à cette éducation. Mais il l'a fait avec beaucoup de dignité. Il l'a fait. Et même ça, la maîtresse d'école avait des hésitations, mais en fait, elle a appris énormément de choses avec cet homme et les enfants aussi. Et puis, il est mort peut-être à 83 ans, peu de temps après, peut-être 8 ans après. Et il était dans une maison de retraite, mais il venait quand même à l'école où il suivait ses cours. Et je crois qu'à la fin il était même un peu sénile, mais il a continué.
Et c'est... On peut dire, oui, ok, donc je peux faire ça dans ma vie à moi, ou je peux dans ce groupe-là, parce qu'on est plus ou moins aisé, etc. Mais je ne peux rien faire pour les autres, ou qu'est-ce que je peux faire, ou etc. Comme dit le Dalai Lama, le désarmement mondial doit commencer forcément par le désarmement de moi. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est l'avidité. Ça commence déjà ici. Mes biens, mes choses, ma famille, ma ville, ma salle de bain, ma voiture, etc. Quoi ?
Ma vie.
Oui, ma vie. Et tout ce qui vient avec toutes ces idées. Et une de ces idées, c'est que je suis trop petite ou trop insignifiant pour faire quoi que ce soit. Mais en fait, c'est pas vrai. Et quand on voit qu'on n'est pas limité, que c'est limite, parce que ce n'est pas juste pour les gamins de 5 ans, mais c'est pour tout le monde, etc. Les obstacles, on s'impose nous-mêmes, toujours. Pour les SDF, comme Bernie Glassman, son chemin, c'est de... Comme je disais pour le cercle de parole, où on enlève, on vide ces formes de nos identifications avec, de nos idées là-dessus, Bernie Glassman, sa façon de faire ça, c'est de plonger dans telle ou telle situation. Et donc, il utilise le cercle de parole, où tout le monde plonge dans cet cercle pour écouter les autres. Mais aussi, il va plonger dans la rue. Il va faire des retraites dans la rue où on vit comme un SDF. Évidemment, on sait qu'on n'est pas SDF. On sait ça. C'est pas la même chose. Mais on fait le plus qu'on puisse faire pour éliminer les différences, pour avoir cette même expérience de ce que c'est. Parce qu'on n'est pas vraiment différente que l'autre. Dans les détails, oui, c'est vrai. On a une maison, on a un boulot, on a des habits, on a à manger tous les soirs, etc. Mais fondamentalement, on est un. Et donc, c'est juste un autre aspect de nous-mêmes qui est là. Et c'est le résultat de notre ignorance, d'ailleurs, qui fait que ces gens sont dans la rue. Et donc, on plonge dans la situation, on enlève nos idées là-dessus. On est forcé d'enlever nos idées, en fait, par la situation. Parce que quand on vit dans la rue, et on dort tous les soirs dans la rue, et on mange ce qu'eux, ils mangent, on fait le mendiant pour demander de l'argent, pour acheter un bout de pain, etc. C'est pas la même chose que de juste penser ça. Ça revient au Coran, que un Coran... C'est expérimenter le Coran, c'est pas la même chose que de juste expérimenter. Les SDF, c'est un énorme Coran. Si on veut vraiment avoir une réponse, il faut y aller. Il faut y aller. Bernie Glassman a fait la même chose avec Auschwitz. On va dire, oui, ok, bon, je vais à Auschwitz, mais je ne suis pas juif. Je n'ai pas vécu en 1942... Je n'étais pas déportée, ou je ne suis pas allemande, je n'étais pas nazie, je ne suis pas polonaise, je n'ai pas vécu là, je ne suis pas homosexuelle, je ne suis pas un gitane, je ne suis pas un communiste. Donc je n'étais pas persécutée, donc je ne peux pas expérimenter ça. Rien à voir avec moi. C'est pas vrai. Quand on y va, on se met dans cette situation... On est obligé de toutes nos idées là-dessus, s'asseoir pendant 5 jours sur ces rails où les gens sont arrivés, la sélection s'est faite. On se rend compte que nous, on fait les sélections tout le temps. On fait les sélections en nous-mêmes et entre les gens, entre les situations, entre les moments, entre les états, entre les attitudes, etc. Et ça, c'est un Coran. Et c'est comme ça qu'on travaille les Corans. Donc on va prendre ce Coran et dire, oui, mais bon, c'est pas moi ça. Je sais pas ce quoi il s'agit, ça. Ça n'a rien à voir avec moi. Donc c'est comme ça que comment on applique ça dans notre vie. Ok, on peut dire qu'aller dans la rue, aller à Auschwitz, c'est des situations extrêmes. C'est vrai. Et on fait ça quand on sort de chez soi ou qu'on rentre chez soi le soir, c'est plus pareil. On a une autre expérience de l'instant, de ce que c'est être, qu'est-ce que c'est la vie, qui est-ce que je suis, etc. Mais ça peut se faire n'importe où. Bon, moi, j'ai pratiqué beaucoup avec Bernie, donc j'étais à Auschwitz, j'étais dans la rue, j'étais à Jérusalem. J'étais dans un quartier très dur à New York, avec des drogués, etc. J'ai fait tout ça. Mais ce n'était pas nécessaire, j'aurais pu faire ça dans ma vie de tous les jours. Je vous dis ça, qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires. Le système des camps, ça aide. C'est Bernie, tout ce qu'il a créé avec ses plonges, qu'il les appelle, ou plongeons, il l'appelle en français, c'est juste une manifestation moderne en Occident des systèmes des Corans. Ça vient directement de son expérience des Corans.
Mais dans ces situations extrêmes, moi j'ai l'impression que c'est pas que j'ai lâché mes idées elles sont tombées d'elles-mêmes, je veux dire, ça n'avait plus lieu d'être, c'est tombé tout seul, quoi. Alors que peut-être dans le quotidien normal, entre guillemets, je dois faire un effort pour lâcher mon idée, je dois voir que j'ai cette idée. Là, c'est comme si ça partait tout seul. Quand j'étais dans la rue, par exemple, en train de faire la queue au Resto du Cœur, au milieu des gens, mais c'était évident que, sur le moment, c'était évident que j'étais mais exactement comme. C'était... Et je ne sais plus quel groupe faisait passer les femmes d'abord. Donc on n'avait pas à faire la queue en tant que femme. Mais j'aimais mieux faire la queue au milieu des gens et attendre mon tour. Et bah, peut-être j'aimais parce qu'il y avait toutes mes idées qui, toutes seules, tombaient.
Et le même est vrai pour chaque instant. Sauf qu'on ne plonge pas dans l'instant. Parce qu'on est tellement fixé dans nos habitudes, nos points de référence, etc., qu'on n'y plonge pas. Mais la même chose est vraie. Chaque instant est aussi neuf, extrême et radical que ça. Mais on n'est plus fixé sur nos petites choses. Les choses encore, parce que ces choses, c'est... Et c'est pour ça que oui, on créer des techniques, des courants. Comme Bernie crée ce courant d'aller dans la rue. Mais c'est la même chose avec... je ne sais pas, quel est le son d'une main, quoi. C'est la même chose. C'est exactement le même principe. De plonger. Mais c'est aussi la même chose que de plonger dans... À cet instant, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je donnais cette petite technique de méditation de essayer d'identifier ce qui est dans une langue qu'on ne connaît pas. Parce que c'est ce que ces plongeons font. C'est un langage étranger. On ne sait plus. On n'a jamais rencontré ça. Et donc, c'est nouveau. Avec ça, c'est très familier. Mais si on essaie de l'identifier dans une langue qu'on ne parle pas, alors là, l'espace ouvre. Et on est obligé de l'aborder autrement. Parce que les indicateurs, les identificateurs, les catégories et tout ça qu'on connaît par cœur, enfin par tête, pas par cœur, ne s'applique plus. Et c'est pour ça que c'est assez génial ce que Bernie fait avec des plongeons, parce que c'est la même chose que moi j'ai dit dans une langue que tu ne parles pas. Il dit la même chose. Viens ici dans une langue que tu ne parles pas. Et tu vas découvrir que on a tous le même langage. Qu'il y a qui a une chose, qui a un langage commun. Comme on l'a dit, et il disait ça à Auschwitz, la seule chose qu'on a en commun sont les différences. The only thing we have in common are our differences. Mais c'est beaucoup, ça. C'est la singularité de chacun. De chaque instant. De chaque chose. De chaque... Alors, de ce petit mot comment... C'est, moi, j'appelle ça la voie royale, parce que c'est rien résiste à ça. C'est, si on le fait vraiment, mais c'est comme avec tout. Hein. Si on fait n'importe quoi vraiment, ben, y a rien d'autre à dire.
Et par n'importe quoi, tu veux dire tout?
Enfin, j'ai dit n'importe quoi. Peut-être, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas tout essayé. Mais, je sais que si je m'implique vraiment dans mon travail de journaliste, quand je suis à mon bureau devant mon ordinateur et je fais ça, si j'aborde ça comme un camp, je vois les choses telles qu'elles sont. Ce n'est que mes idées qui me séparent de les choses telles qu'elles sont. Et donc, si je n'ai pas d'idée préconçue de ce que je fais, à chaque instant, je vois les choses. Bon, c'est pas évident. Enfin, c'est évident, mais c'est pas facile. C'est pas facile.
Mais c'est nos préférences d'aller vers ce qui nous rassure. Vers notre identité, vers...
Oui, oui.
C'est ça le problème. Mm. On est content d'avoir telle ou telle attitude, ça nous rassure.
C'est ce que je disais hier, c'est notre rapport avec la douleur et le plaisir. Où ça se résume à la séparation, parce que pour un bébé, ce qu'il importe, c'est de manger. Et parce que manger, c'est associé avec survivre, la vie. De gagner quelque chose, de se nourrir et de vivre, donc. Ne pas manger, c'est associé avec la mort, la perte. Et donc, la séparation est associée avec la perte. La mort. Mais quand le bébé est avec la mère et mange, il ne voit pas de différence entre lui et sa mère. Bon, ce sont vraiment des trucs psychologiques, mais c'est associé avec la vie et la survie. Alors évidemment, nous, ça reste. Et donc tout ce qui touche à la séparation, non. On ne veut pas être séparés. Ce qui est curieux, c'est que on ne vit que dans la séparation. À cause de ça, on vit que dans la séparation. On éloigne tout qui, en quoi, menace notre survie. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs conceptuels, etc. Mais bon, c'est juste un petit... Si vous regardez ça, regardez un peu autour de vous et en vous, et vous allez voir que c'est. Qu'on a cette expérience. Quoi, de, je n'aime pas cette personne parce qu'il.
Il n'est pas comme moi.
Voilà, il n'est pas comme moi. il ne me confirme pas comment moi je veux être vue, etc. Il menace cette idée que j'ai sur moi-même. Et, ou j'aime cette personne parce qu'il me renforce mon idée de qui je suis. Il me nourrit, il me donne à manger mon image de moi. Celui qui ne nourrit pas cette image, soit je suis hostile, je l'engueule, je suis en colère contre lui, il m'énerve, etc. Soit il n'existe même pas. Je ne le vois même pas.